Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et ceci n'est pas un épisode de Comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre podcast engagé et très stylé, qui s'appelle Soif de sens, et qui est animé par Pierre Chevel. On peut y entendre plein de militantes ou de personnes qui ont changé de vie pour essayer de changer le monde à leur échelle. Et ce, dans des domaines aussi différents que le féminisme, l'écologie, le social, l'animalisme, etc. Et oui, il y a quelques épisodes avec des personnes engagées pour les autres animaux, comme Pierre Rigaud, sur la question de la chasse, ou Madeleine Rubin, de l'ASPAS, qui s'engage pour aider les animaux sauvages. Alors je vous laisse aller explorer tous ces épisodes, et vous abonner à Soif de Sens, mais avant ça, vous pouvez écouter cet épisode qui m'a énormément plu et que j'ai choisi de vous diffuser. C'est un entretien avec Cora, qui tient notamment le compte La Friglaneuse sur Instagram et a écrit le livre Frigan, dans lequel elle explique les principes du friganisme. Et si vous vous souvenez bien, on avait un peu parlé de ce qu'est le friganisme dans l'épisode de l'été dernier, Chaos pour le véganisme, avec Valérie Giroux. Alors c'est l'occasion de le réécouter aussi. Voilà, bonne écoute, bisous.
Oserais-tu manger de la nourriture récupérée dans les poubelles ? Voici le mouvement Frigan. Bienvenue dans Soif de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Cora Bossuet pour parler de friganisme et d'anti-gaspillage. Salut Cora !
Salut !
Alors, je te présente en 10 secondes. Le jour, t'es gérante d'une boutique vegan à Bordeaux, où tu cuisines aussi. Et la nuit, ou plutôt le soir, tu es frigane. On va vous expliquer ce que c'est. Tu fais les poubelles ou tu récupères des montagnes de nourriture tout à fait comestible. Et tu racontes tout ça sur ton compte Instagram, @lafriglaneuse. Et désormais, dans le livre Frigane, principes et recettes pour se nourrir sans rien dépenser, que j'ai dévoré. Si vous connaissez pas le friganisme, c'est normal. C'est un mot valise entre free, gratuit et gan comme vegan. Et c'est un peu deux choses à la fois. Une manière de se nourrir gratuitement. Donc ça peut être les poubelles, mais il y a plein d'autres manières. Les fins de marché, on va en parler, ou d'autres façons. Donc à la fois, ça suscite un peu du dégoût et de la curiosité. Et en fait, plein de questions sur pourquoi on fait ça et comment, etc. Mais c'est aussi plus largement un mode de vie et un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire et la surconsommation. Et du coup, comment est-ce qu'on peut se procurer des choses gratuitement autrement que par les circuits de l'argent, quoi. Pour commencer, toi, Cora, tu as découvert le friganisme en Allemagne où il y a plein de frigos en libre-service. Il y en a quelques-uns en France, mais là-bas, il y en a beaucoup plus. Et tu écris que ça t'a donné envie de faire les poubelles. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Ouais, carrément. Donc, j'étais arrivée à Leipzig et juste en bas de notre appartement, ma colocataire m'avait montré donc les Fertiler. C'est un mélange entre les frigos solidaires et les étagères à livres. Ouais. Et la première fois qu'on y allait, donc on a ouvert l'armoire et là, il y avait plein de nourriture comme ça et j'en revenais pas, en fait, de voir toute cette nourriture déposée, mais vraiment de manière totalement désintéressée, généreuse. Et il y avait tout ça. Et c'est devenu clairement mon point de rencontre quotidien. J'allais tout le temps pour découvrir ce qu'il y avait. C'était vraiment plus de la curiosité que vouloir absolument tout prendre comme ça, mais c'était vraiment à quel point...
Ouais. Toi, tu prenais des trucs dedans ?
Oui, oui, clairement. Et puis, ça m'a vraiment nourrie pendant un an. Et à la fin de l'année... Ouais. Et donc, après toute cette année à m'être servie bien copieusement dans ce Fertiler, je me suis dit, j'ai quand même envie de moi aller chercher la nourriture, en fait, d'être la personne qui met dans ces étagères plutôt que de prendre uniquement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les poubelles, quoi.
Ah, d'accord. J'avais pas compris le lien, effectivement. Oui. OK. Et du coup, quand tu commences à faire les poubelles, est-ce que tu te rappelles de la première fois ? Oui, j'imagine qu'il y a un cap psychologique à franchir. Voilà, comment ça s'est passé ? Parce qu'il y a de la peur. Enfin, moi, j'aurais un peu peur. En même temps, de la curiosité. En même temps, un peu de honte. Et en même temps, c'est un peu une pêche au trésor, quoi. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber.
Exactement, surtout qu'en Allemagne c'est interdit, alors qu'en France c'est plutôt autorisé, en fait. Enfin, la loi autorise tant que c'est sur la rue, c'est sur la voie publique. Non, en Allemagne c'est interdit, donc il y avait ce côté un petit peu illégal, mais il y a beaucoup plus de personnes qui le font en Allemagne, donc c'est
paradoxe.
C'est un gros paradoxe. Et alors, la première fois, j'avais voulu faire ça avec ma colocataire, on était tombé sur des poubelles fermées, donc pas possible. Et en plus, c'était en pleine période de pandémie, donc c'était vraiment en mars-avril 2020. J'avais trouvé sur Instagram une partenaire de friganisme, comme on dit. Et donc, avec cet inconnu, nous sommes allés dans un vieux parking souterrain. L'endroit était méga glauque. Il y avait deux, trois petites poubelles vraiment dans le coin comme ça. On était là, si on se fait prendre, ça sera pas joli. On a ouvert les poubelles et là, c'était incroyable tout ce qu'il y avait dedans. Déjà, il y en avait une qui était uniquement remplie de pain frais. C'était assez choquant. Et en même temps, il y avait un peu ce côté chasse au trésor. Enfin, on venait de découvrir plein de trucs et on voyait que tout était mangeable, tout était comestible et c'était incroyable.
Et donc oui, donc effectivement, tu les postes sur ton Instagram. Voilà, on voit tes collègues de il y a beaucoup de pain, de fruits et légumes, de bananes, de pommes, brocolis, carottes, tomates, poireaux et ça fait vraiment des quantités énormes. Parce qu'en général, j'imagine, c'est plus des poubelles, pas des poubelles individuelles, c'est des grosses poubelles d'épicerie ou de centre commercial, quoi. Tu renverses les poubelles et tu te sers, c'est ça?
Oui, alors on fait uniquement les magasins bio, parce que tant qu'à faire, autant prendre dans
autant
la qualité
faire des poubelles
et avoir
de riche,
du bio. Ouais. C'est ça. Donc oui, non, les poubelles des particuliers, ça sert à rien. C'est pas là où il faut aller chercher, donc c'est vraiment magasin bio. Et on trouve vraiment de tout, surtout fruits et légumes souvent, parce que dès qu'il y a une petite tache, c'est un peu abîmé, et ils jettent totalement, il n'y a pas trop de conscience là-dessus, de « ah, ça peut quand même être mangé », non, ils jettent directement. Pardon, j'ai oublié la question.
Du coup, tu renverses par terre ou tu plonges dedans ou tu...
Donc souvent, nous sommes deux, parce que c'est les grosses poubelles, limite les bennes,
ouais.
on les renverse à deux, on met souvent des cartons par terre pour que ça reste propre, tout ça. On prend les sacs, une fois la poubelle renversée, on prend les sacs, on les ouvre, on regarde, on prend ce qu'on veut, et puis après on remet les sacs, on remonte la poubelle, on vérifie que tout soit bien propre par terre, et puis voilà.
Ouais. Et toi, la première fois, tu peux nous raconter comment ça s'est passé physiquement et dans ta tête surtout, effectivement. Donc tu avais trouvé tout ça, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois ces trois petites poubelles et que dedans tu trouves...
Je me rappelle très bien, j'ai pensé comment je vais faire pour rentrer chez moi, je vais pas pouvoir tout prendre.
Ouais, je n'arrive pas trop. Genre,
je me voyais déjà remplir un énorme cabas, j'étais à vélo, donc je pouvais le mettre sur le truc arrière, et il y avait ce côté waouh, tout ça. Et en même temps, le fait de ne pas pouvoir tout prendre, on a l'impression que c'est nous qui le gaspillons, qu'on le rejette derrière, et on sait que ça peut servir.
Ouais.
Et sauf qu'on peut, voilà, quand il y a trop de choses, à part si on dit à des gens, ah ben vous pouvez venir, enfin il y a ça, on le sait que ça va être gâché derrière. Donc, il y a un mélange entre « waouh, c'est incroyable, je vais pouvoir tenir un mois avec tout ça », et d'un autre côté, ça aurait pu nourrir plein de personnes et je ne peux pas leur donner, quoi.
Et tu n'avais pas eu de frein de « j'ai peur » ou « j'ai honte » ou « j'ai peur que ce soit sale » ou « pas sain » ou « périmé »
J'ai pas eu des peurs là, donc si c'était des contraintes, donc par exemple la saleté, j'étais bien équipée, et au pire, si c'est vraiment trop sale, j'y vais pas.
Toi, psychologiquement, ça a été assez facile la première fois, clairement. À te lancer, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que mes deux freins... j'imagine soit assez partagé, effectivement ce serait que ce soit sale et la honte, mais tu dis qu'apparemment c'est assez propre en général, et surtout tu dis mais qui c'est qui doit avoir honte en fait, celui qui gaspille ou celui qui lutte contre le gaspillage en récupérant
exactement
ce qui est tout à fait comestible, quoi.
Ouais, non, on n'a pas du tout à avoir honte parce qu'on fait que voilà, on sauve de la nourriture qui est destinée à être jetée. Non, il n'y a pas de honte, et même si on le fait pour des raisons économiques ou quoi, faut pas, parce que la finalité c'est la même, c'est qu'on a lutté contre le gaspillage alimentaire finalement.
Ouais. Un autre frein que tu évoques dans le livre, ça peut être de se demander si on pique la nourriture d'une personne SDF. Et dans ton podcast Freegan, il y a une super anecdote d'une glaneuse qui raconte comment, au contraire, ça lui a permis de se lier d'amitié avec une vieille dame SDF qui n'avait pas la force de renverser les grosses poubelles de magasins pour les faire. Et est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote?
Oui, alors je m'en rappelle aussi, du coup. Donc c'était Andrea du Conte le Renard et le Raisin qui parle aussi de friganisme. Et elle disait que quand elle faisait les poubelles, il y avait souvent une autre vieille personne, mais qui avait des goûts un peu spécifiques et qui voulait que des fromages de brebis, je crois, si je me rappelle bien.
Ouais.
Et donc, quand elle était là, il lui donnait. Et même quand elle n'était pas là, il faisait toujours en sorte de lui laisser à côté pour qu'elle puisse se servir. Et le friganisme, ça développe beaucoup plus l'entraide que la jalousie ou autre chose. Et puis aussi, il ne faut pas penser qu'on va prendre aux personnes qui sont dans le besoin. parce que souvent, en fait, ces personnes-là n'ont pas de quoi cuisiner, n'ont pas accès à une cuisine, ne peuvent pas faire chauffer des aliments, tout ça.
Oui, des pâtes ou quoi.
Voilà, et quand on trouve des légumes qu'il faut faire cuire, parce que bon, c'est quand même pas de première fraîcheur, ou des fois c'est un peu abîmé, donc c'est mieux quand même de faire cuire pour tuer les bactéries, les microbes, voilà. Comme
oui, ou une citrouille, bon bah.
Voilà aussi. Et donc on a besoin de cuisiner tout ça, et souvent, bah, les personnes à la rue n'ont absolument pas accès à ce genre, enfin voilà, une cuisine, une gazinière, tout ce qu'on veut. Donc, on préfère leur laisser ce qu'ils peuvent directement manger, ce dont ils ont vraiment besoin. Et bien sûr qu'on les laisse prendre en priorité. On n'est pas là à côté.
Bah non, j'étais là en premier.
Ça ne marche absolument pas comme ça. Oui. Donc, on les laisse prendre tout ce qu'ils veulent. On leur propose. Et même souvent, ils sont là. Non, non, gardez pour vous. Et on insiste un peu pour qu'ils le prennent. Parce que là, on se sentirait super mal si on leur prenait. Oui. Voilà. Mais en général, non, c'est vraiment de l'entraide. On fait des belles rencontres aussi. On échange un peu, tout ça. Non, c'est toujours... c'est une expérience un peu sociale. Enfin, super intéressante, en fait.
Bah ouais. Et en vrai, surtout, il y a des montagnes de bouffe. Donc, il y a 1000 fois assez pour...
Exactement.
Pour pas prendre OSDF. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui font les poubelles? Manger gratos, c'est sûrement la raison numéro une. Avec 11 millions de pauvres en France, sous le seuil de pauvreté, moi, je peux pas m'empêcher de penser aux images de files d'attente interminables d'étudiants pour l'aide alimentaire qui ont explosé pendant le Covid notamment. Mais c'est évidemment aussi écolo. Un tiers de la production mondiale de fruits et légumes est jeté chaque année. Et on estime que le gaspillage alimentaire, si c'était un pays, ce serait le troisième plus gros émetteur de CO2 derrière la Chine et les US. Bon, c'est vertigineux, quoi. Comment ça se fait qu'on jette autant ?
C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, en parlant de chiffres, j'ai lu cette semaine qu'aux États-Unis, c'était presque la moitié de la nourriture qui était jetée avec les nouveaux calculs. Donc, c'est juste c'est révoltant, ouais. En vrai. Et pourquoi c'est jeté? En fait, déjà, il y a du gaspillage sur tout le long
toute
du processus.
Chaîne.
Voilà, donc ne serait-ce que dans les champs, on sait très bien que dès que les ingrédients ne sont pas conformes au calibrage, je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà, ils sont déjà jetés.
Oui, s'ils sont moches, un peu difformes ou quoi, les supermarchés, ils les refusent, quoi.
Exactement. Donc après, il y a forcément, lors de la vente, si les produits arrivent à date ou s'il y a un emballage qui est un peu altéré ou une petite tache, des choses comme ça. Mais vraiment, des fois, ça peut se jouer à rien. Et quand on découvre des choses dans les poubelles, on est là, mais pourquoi ça a été jeté, c'est en parfait état, la date n'est pas dépassée, rien. Des fois, c'est juste parce qu'il reste un seul produit en rayon et que ça fait un peu longtemps qu'il est là, il faut faire de la place dans les rayons, donc ils vont jeter. Même pas chercher à partager ou à récupérer entre employés, non, ils jettent.
Ouais. Hein. Bah, ça demande du temps de trouver quelqu'un qui veut les prendre et tout. Ouais.
C'est ça. Donc il y a ça, il y a aussi dans les restaurants, il y a vraiment du gaspillage partout et dans les ménages aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde va dire « Ah ben non, moi je gaspille pas, on ne jette rien et tout. » Mais je mets vraiment tout le monde au défi, mais de manière pas...
Oui, pas moralisatrice. Quoi,
voilà, juste de prendre conscience, parce que même ma propre mère, des fois, elle dit « Ah non, moi je gaspille rien. » Et quand je suis avec elle pendant 3 jours, moi ça me heurte de voir ce qu'elle peut jeter, qui aurait pu être utilisé, et je suis à métier en train de jeter. Et c'est là où les gens prennent conscience en mode « Ah ben oui, je le voyais pas en fait. »
Ouais. Ouais, t'écris, il y a un tiers du gaspillage qui a lieu dans les ménages, donc c'est quand même pas mal. Le reste, c'est effectivement dans les restos, les champs, les usines, les supermarchés, etc. Et en moyenne, chaque Français met environ 30 kilos de nourriture par an à la poubelle, dont 7 kilos pas consommés et encore emballés, quoi. Donc c'est vraiment le truc que t'oublies dans un coin de ton frigo et qui est périmé, quoi.
C'est ça.
Et ce que je trouvais intéressant aussi, que tu soulignes, c'est que c'est écolo, effectivement, pour le côté... gaspillage alimentaire, mais c'est pas que une question de bouffe, c'est aussi le gaspillage de l'eau qu'il a fallu pour arroser la plante, l'arbre ou quoi, des sols, l'usage des machines, des pesticides, des transports, l'électricité des frigos, etc. Et tout ça, ça a une empreinte carbone aussi, et c'est du gaspillage d'énergie et de ressources. Ouais.
C'est ça, oui. Donc quand on sait que en fait tout ça n'a été produit pour rien. Alors ouais. Qu'en plus, si on met donc côte à côte, on revient sur la pauvreté, la famine et tout, mais quand on met côte à côte les chiffres du gaspillage alimentaire et de la faim dans le monde, en fait, ça se passe juste de commentaires tant la réponse est évidente, en fait, la solution est évidente.
Ouais, et je pense qu'on sous-estime, enfin, J'imagine que tant que tu fais pas les poubelles, c'est très dur de se rendre compte de la quantité astronomique de nourriture fraîche ou de bonne qualité, quoi, que tu pourrais très bien manger, qui est dans nos poubelles, quoi. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte de tout ce qu'on jette qui est parfaitement comestible, quoi.
Oui, et même quand on fait une seule petite poubelle et quand c'est une petite prise, parce qu'on a des grosses et des petites prises, on va dire, ouais. Et que les gens nous voient juste sortir des fois une petite banane de la poubelle ou qu'il y a quelques fruits et légumes par terre, voilà, ouais. Ils sont déjà extrêmement choqués et on leur dit « mais ça, c'est rien, en fait, de tout ce qu'on trouve ». Et là, ouais. Dites-vous que c'est juste une seule poubelle, un seul soir, dans une grande ville. Et c'est là où on se rend compte que nous, on fait… Enfin, moi, j'arrive à récupérer tout ça en faisant juste deux ou trois poubelles. Je n'ose même pas imaginer si je faisais celle des gros magasins et si je voyais juste, ne serait-ce que dans ma ville, on pourrait nourrir énormément de monde. Alors, dans le pays entier, dans le continent, ça doit être atroce.
Ouais. Bon, bien sûr, c'est le résultat d'une anomalie dans notre bon vieux système capitaliste, mais on peut aussi le voir sous l'angle de, bah, une échelle plus micro, ça peut permettre à des milliers de personnes de se nourrir gratuitement et sainement, et parfois avec des produits où ils n'auraient pas les moyens de se les payer. Ou voilà. Donc concrètement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de tester, qui veulent manger gratuit et faire une action écolo directe, ça peut être autant d'ailleurs des gens, effectivement, des familles modestes que... Enfin, j'en reparlerai après, mais moi j'ai des super potes qui font... Voilà, qui gagnent très bien leur vie, mais ils ne supportent pas le gaspillage, donc ils font les fins de marché et bah, pour lutter contre le gaspillage. Et puis, bah, c'est toujours agréable aussi d'avoir des bons produits de producteurs locaux bah, gratos. Donc, comment est-ce que tu fais pour faire les poubelles? Là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, il se dit « Ok, vas-y, on va voir si ce que Cora, elle raconte, c'est vrai, il y a vraiment des trésors en bas de chez moi.
Ouais, »
Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors déjà, bon, les poubelles, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc, si on a la campagne, ça risque d'être plus compliqué. Mais en tout cas, si vous êtes en ville...
Ça marche un peu plus.
Voilà. C'est parfaitement possible en ville. Je conseille de privilégier les magasins bio, souvent, parce que c'est là où, d'expérience, il y a le plus de choses. Et voilà, les magasins qui sont un peu sur les bords de rue, sur les grandes artères, voilà, pas les centres commerciaux, parce que eux, ils font venir directement les camions ben à l'intérieur, au sein de... Oui. Centre commercial, donc ce n'est
pas accessible et c'est illégal.
Ce n'est pas accessible, voilà. Je connais quand même des gens qui sont amis avec des personnes qui travaillent dans les grands magasins, qui les font rentrer dans l'enceinte du truc. Mais bon, on va rester sur les poubelles donc de la rue. Vous guettez les soirs où ils sortent les poubelles. Ça peut être quasiment tous les soirs, comme ça peut être deux fois par semaine.
Bah, il faut connaître les horaires de passage. Ouais.
Voilà, exactement. Donc vous guettez, et puis quand vous voyez les poubelles de sortie, alors nous, ça, on a la chance, les magasins bio nous connaissent et nous laissent totalement faire. Mais quand on n'est pas sûr, on essaie d'être plutôt discret et de surtout de tout laisser propre. Donc,
oui, je me demande comment tu fais si tu attends que le magasin il soit fermé ou tu
fais non, il est encore ouvert, il y a les clients qui sortent et qui nous voient.
D'accord.
Parce que nous, on a la chance, voilà, on est des jeunes filles, on laisse tout bien propre, donc forcément, ça passe mieux pour les gens, malheureusement, que si nous étions vraiment des personnes dans le besoin, à la rue, tout ça. Là, ils sont beaucoup moins gentils, on les a déjà vus faire, donc c'est malheureusement notre privilège, on va dire.
Mais ah ouais, c'est ouf. Donc, t'as du classisme même dans le...
Ah, mais totalement.
Tu fais les poubelles, mais si t'as l'air d'un SDF, ça va pas, mais si t'as l'air de... Ok.
Mais oui, parce que nous, donc les gens, ils nous voient, ils sont là, oh, bravo, incroyable, c'est génial ce que vous faites, ils nous prennent pour une asso, ou juste on leur dit qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, et tout de suite, c'est super cool, c'est bien, les jeunes qui sont engagés. Mais les SDF qui l'ont fait juste avant, ils ont rien eu. Hein.
Ça,
je suis sûre que personne leur dit, bravo, c'est incroyable ce que vous faites. Donc voilà, malheureusement, c'est ça. Donc oui, on revient sur les poubelles, pardon, je digresse.
Le conseil, ouais. Y aller à plusieurs aussi, ça peut...
Oui, bah, souvent à deux ou à trois, pas trop non plus, parce que si vous faites une petite prise et qu'il faut tous partager en cinq ou six, c'est pas forcément cool. Deux ou trois, c'est le nombre idéal. Ça permet de descendre la poubelle à deux, de la remonter, de bien nettoyer, d'atteindre les trucs au fond, enfin... Ouais. Voilà, donc souvent on sort les sacs, on les ouvre, on regarde vite fait s'il y a des choses. Faut bien avoir des gants MAPA. Je conseille toujours d'avoir des gants en plastique pour pouvoir fouiller, d'avoir des vêtements qui craignent pas ou un peu imperméables.
Ouais.
Et puis après, bah voilà, il n'y a plus qu'à se servir.
Ouais, tu disais aussi, bah, c'est pareil logique, mais amener des grands sacs de course parce qu'en fait, bah, tu peux avoir 10 fois plus que ce que tu croyais. Donc je sais pas, ramener des sacs IKEA ou des gros sacs.
C'est ça, ouais. Après, nous maintenant, on est au level un peu supérieur. On a carrément donc, les gros cabas. J'ai une amie qui a carrément un caddie à roulettes parce que quand on doit marcher entre deux poubelles, bah, c'est beaucoup plus pratique. On a des petits sacs à l'intérieur, des sacs zip ou même des pochons en craft parce qu'il y a des choses un peu plus fragiles ou qui peuvent tâcher ou si ça s'écrase dans le sac, bah, c'est pas ouf.
C'est bien organisé.
Ah ouais, non, vraiment, avec l'expérience, on sait quoi prendre. prendre. Et puis les lampes frontales aussi, c'est super bien, c'est
pratique. Oui, oui. Et évidemment, tu l'as dit, mais nettoyer quoi, par respect pour le commerce, pour les passants, et effectivement, aussi pour les éboueurs.
Pour pas se faire griller, entre guillemets, parce que si on laisse tout sale et que on veut rester discret et pouvoir revenir après, ben voilà, les gens n'ont jamais su que vous avez fait les poubelles. Par contre, si vous laissez dans un état déplorable, déjà, il peut y avoir des plaintes pour détérioration ou j'ai plus le terme, mais des choses comme ça. Et puis juste, les gens savent que vous êtes passé, enfin les employés du magasin savent que vous êtes passé, et ça peut être mal pris ou voilà.
Ouais. Une alternative aux poubelles qu'on a évoquée, c'est les fins de marché. Donc là, je parlais de mes deux copains, Bisous, Olivier et Clem, qui font ça. Et tous les week-ends, ils font la fin de leur marché à Paris et ils ramènent des montagnes de bouffe où du coup, ils se font toute la cuisine pour la semaine. Est-ce que tu peux nous partager 2-3 conseils pour récupérer des invendus en fin de marché ?
Oui, souvent, si on connaît déjà, enfin si on y va déjà sur le marché, qu'on a nos petits primeurs préférés habituels, pourquoi ne pas tenter de leur demander ? Parce qu'ils vous connaissent déjà, entre guillemets.
Oui.
Donc, ils seront plus à même de donner en mode « Ah ben oui, vous venez souvent, vous me soutenez souvent, je peux bien faire un geste en échange. »
Ouais.
Donc ça marche souvent. Ou sinon, de proposer de vraiment d'aider à ranger et puis de récupérer ce qui reste en leur disant que
malin,
ça vous fera ça de moins à remballer et à jeter chez vous. C'est juste aider, c'est un bon échange.
Ouais, c'est du troc, quoi. Tu me rends service.
Exactement. Et même souvent, je reviens sur l'apparence un peu, mais quand on est des bons petits jeunes comme ça, qui ont l'air gentils, un peu cool et tout, on dit, on récupère ça, on lutte contre le gaspillage, et là, les gens donnent hyper facilement.
Ouais, ce que t'écris déjà, juste avoir un grand sourire et effectivement, demander au vendeur s'il a des fruits et légumes abîmés qu'il peut pas vendre et qu'il accepterait de vous donner.
C'est ça.
Ça paraît bête, mais...
Ouais, avec les cajots, avec l'air un peu, on est une association, que ce soit vrai ou pas, les gens aussi, ils vont plus facilement donner.
Ah, le prétexte association, ouais. Habile. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et oui, et si vous n'êtes pas déjà client de la personne, parce que vous faites le tour du marché, vous n'achetez pas forcément chez tous les producteurs, ou vous faites le tour d'un marché autre que le vôtre, effectivement, d'abord acheter quelque chose, enfin demander après avoir acheté quelque chose, c'est une bonne astuce aussi.
Ouais, c'est un petit plus, quoi.
Ça marche aussi, tu l'évoquais, avec les invendus de magasins, où effectivement, là, tu peux avoir une relation, ça passe beaucoup plus par le relationnel, comme tu parlais de ton ami qui est en contact avec un supermarché. Est-ce que, pareil, tu peux nous donner 2-3 conseils pour récupérer leurs invendus ? Comment est-ce que,
est-ce que tu crées ce contact ? Privilégier les magasins indépendants, les petites boutiques, tout ça, de manière générale, pas seulement pour le friganisme, j'appelle à soutenir les indépendants, c'est très important.
Ouais.
Bref.
Et il paraît que les naturalias, ça marche plutôt bien.
Non, les naturalias, c'est les poubelles qu'il faut faire, mais par contre, comme derrière, c'est un gros magasin pas du tout bio, les employés sont même eux-mêmes, n'ont pas le droit de récupérer.
Okay.
Voilà, donc ils n'auraient pas le droit de donner, je pense.
Ouais.
Donc, mais non, plutôt les boutiques indépendantes ou des supermarchés ou alors des petites supérettes comme ça, si vous sentez que la personne n'est pas simple vendeur, qui a un poste un peu plus haut, ça peut marcher. Après, j'ai vraiment fait avec des magasins où je connaissais vraiment bien la personne.
Oui, parce que forcément, tu vas te prendre plus de refus, quoi. Mais plus tu prends des trucs écolo, a priori, t'augmentes un peu tes chances.
Après, il y a souvent la même excuse de « Ah, mais on donne déjà à des associations. » Et puis après, quand le soir, on va faire leur poubelle, on voit qu'ils ne donnent pas du tout.
Oui, c'est pour te dire non poliment, quoi. Mais...
C'est ça.
Oui, tu dis aussi, essayer de passer pendant les heures calmes et voilà, et prendre tout ou rien, quoi. Commencez pas à les saouler. Alors, je vais juste vous prendre ça et ça. Enfin, le but, c'est de...
Oui, pas commencer à trier.
Ça leur demande du boulot en plus. C'est pas les salariés qui sont responsables du gaspillage de leur magasin non plus, quoi.
Exactement.
Ok, trop bien. Donc ça, il y a plein de manières de récupérer de la bouffe. Donc dans les poubelles, les invendus de magasin, les fins de marché. Donc une fois que tu as récupéré ta bouffe dans ton super caddie ou tes petits sacs ou peu importe, de retour chez toi, en fait, faut quand même vite trier entre ce qui est urgent à cuisiner, ce qui est à mettre au frais ou à laisser à température ambiante. C'est quoi, toi, quand tu rentres chez toi, les premières étapes une fois que tu es à la maison ?
Ouais. Avant, quand j'allais faire du friganisme en Allemagne, c'était en début de journée, donc c'était génial. Je rentrais chez moi vers 10h, donc là, je pouvais directement me mettre en cuisine et tout préparer, tout cuire. Donc en effet, il y a souvent des légumes qui peuvent être un peu moisis sur les bouts, donc c'est mieux de couper, de faire cuire directement, de mettre au congélateur tout ce qui va être matière sèche parce que ça peut être infecté par les mites. Alors ce n'est pas grave en soi, ce n'est pas toxique, mais on n'a juste pas envie d'avoir des mites dans ses placards et dans sa nourriture. Donc un petit 24 heures au congélateur, et quand c'est de la matière sèche, ça ne va pas en décongelant garder l'humidité. C'est ouais. super safe, donc on fait ça. Sauf que là, maintenant, je vais faire les poubelles le soir. Et quand je rentre, c'est un peu l'heure où je dors normalement. Donc, je range extrêmement vite. Je fais le minimum et je me charge de tout le lendemain. J'ai jamais eu de problème. Donc, voilà.
Ouais, donc vraiment, ça paraît évident. Mais oui, vérifier l'état des choses parce que tu sais pas sur quoi tu tombes. Rincer tout ce que tu peux, les fruits et légumes. Et foncièrement, tu me dis, il y a très peu de risques voilà, sanitaires, de santé, quoi, en vrai. Bon, à condition de ne pas être débile non plus, quoi. Si ça pue ou si c'est moisi, tu ne le manges pas ou tu coupes la partie moisie, quoi. Fiez-vous aussi, évidemment, aux dates limites de consommation, mais aussi à votre odorat et à votre vue, quoi. Fin.
Oui, voilà, on est doté de 5 sens et c'est le moment de les mettre en marche, on va dire. Enfin, c'est juste quand on regarde un produit, il faut pas s'arrêter à la date parce que s'il a l'air vraiment bon, qu'il n'y a pas d'odeur, qu'à l'aspect ça va, on peut goûter un petit peu du bout de la langue pour voir. Mais vraiment, la plupart des choses sont consommables même 2-3 mois après la date limite de consommation.
Toi, tu penses que tu gardes, 90% de ce que tu récoltes ou?
Oh, même plus, parce qu'en fait, le tri, on le fait déjà en amont.
Oui, tu le fais sur place.
Donc voilà. Et
en même temps, tu prends que les meilleurs trucs, oui. Donc,
Voilà, c'est ça. Donc, et puis, avec l'expérience, c'est vraiment quoi prendre. On sait ce qui est vraiment sans risque. Donc, j'ai très rarement de mauvaises surprises, finalement.
Et d'ailleurs, que ce soit pour les spots ou les petites astuces comme là, on vous partage ou dans ton livre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur des groupes Facebook ou des réseaux sociaux ou de partage de bons plans. Donc, n'hésitez pas non plus à faire vos petites recherches et rencontrer d'autres gens dans votre coin qui font la même chose parce que ça reste les meilleures personnes qui pourront vous aider à dire là, il y a un super spot ou trouver un partenaire en fait.
Ouais, totalement. Sur Facebook, il y a des groupes, j'ai oublié le nom, hein, mais il y a un groupe qui est vraiment très actif et qui a répertorié une carte avec vraiment, donc les gens peuvent se retrouver selon les régions, les villes, c'est vraiment génial et tout le monde est très très bienveillant.
Donc voilà, là c'était à la fois pour ceux qui ont envie et puis même, moi, je trouve ça, même pour ceux qui vont pas le faire, c'est hyper intéressant de découvrir ce mouvement parallèle, même si le friganisme, ça se résume pas à ça, c'est plus large, mais dans ton livre, donc, tu partages surtout de délicieuses recettes, du coup, pour cuisiner à partir de ces invendus. Et souvent, en plus, comme c'est pas toi qui fais les courses, c'est les poubelles qui choisissent ce que tu récupères et pas l'inverse. Et donc, des fois, on sait pas forcément quoi cuisiner quand on se retrouve avec 3 tonnes de pain ou de bananes. Mmh. Et donc, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, il y a des recettes de houmous pimenté à la mangue. Donc ça peut être pratique aussi pour récupérer des fruits exotiques qui viennent de l'autre bout du monde que tu n'achèterais pas parce que c'est pas écolo. Mais là, comme c'est jeté à la poubelle, tu peux manger de la mangue. Chou rouge fondant aux pommes et à la moutarde ou du pain perdu à la banane et coulis de fruits rouges, etc. Le pain, par exemple, oui, évidemment, on peut le congeler, faire des croûtons, de la chapelure, avec des fruits abîmés, tu peux faire des smoothies, etc. Enfin, c'est plein de bons réflexes. Toi, ce serait quoi ta recette chouchou du moment, toi qui adores créer des recettes végétales?
Le truc que j'adore, c'est réutiliser les vers de poireaux en tagliatelle. Et c'est hyper fondant, ça a du goût, enfin, c'est trop trop bon. Donc j'avoue que je m'en suis fait pas mal cette trop semaine. Bien.
Donc ça, c'est même pas forcément des invendus, ça peut être n'importe qui d'habitude les met à la poubelle
Et juste des sauces à base de légumes, même un peu fromagère avec de la pomme de terre et de la carotte, quelques épices, et bien mixé, ça fait une super sauce pour les pâtes, tout. C'est tout bête, mais c'est tellement bon.
J'avoue, moi j'ai trop envie de parler bouffe pendant longtemps, mais c'est pas le thème du podcast. Donc je l'ai évoqué, mais oui, être freegan, c'est pas que se nourrir gratos, quoi. Il y a une portée politique, c'est un acte politique. Même si c'est pas un truc nouveau en soi, il y avait des glaneurs au Moyen-Âge après les récoltes où ils récupéraient les pommes de terre restantes à la fin de la récolte. T'écris que le mouvement freegan est né aux États-Unis dans les années 90 avec une vision assez anarchiste contre la surproduction, en fait. Parce que comme on a des rayons très, très diversifiés, très variés et tout le temps plein en permanence, sinon ça fait pas bien, vous comprenez, forcément, il y a trop de stocks et donc des invendus. Et comme on a décrété que les fruits et légumes doivent être tous, entre guillemets, beaux, enfin juste uniformes et avoir les mêmes formes et tout, y a plein d'invendus aussi. Et j'aime beaucoup le témoignage d'Andrea dans ton podcast Freegan qui dit « Je préfère utiliser mon temps pour récupérer des invendus directement que travailler pour gagner de l'argent, pour acheter de la bouffe au supermarché qui soutient un système capitaliste, pour me nourrir. » Enfin, c'est beaucoup plus direct. T'es là, oui, en fait, ça a du sens, quoi. En quoi, pour toi, être freegan, c'est un acte politique?
Déjà, donc c'est la lutte vraiment contre un problème de la surproduction et de la surconsommation. On lutte concrètement et directement contre ça en, ouais. En luttant contre le gaspillage. Et surtout, derrière, comme on récupère énormément de choses, ça diminue nos achats. Donc, on contribue moins avec notre argent à cette société capitaliste, surproductrice et surconsommatrice. Et puis, de juste montrer qu'on peut s'engager comme ça. Enfin, il y a vraiment une portée politique. Et en plus, ça peut être social et solidaire. Si derrière, on redistribue, on peut recuisiner. Ça, pareil, j'en parle peu, mais en Allemagne, il y avait les Volksküche. Donc, c'est les cuisines du peuple, un peu comme les restos, ouais. Les restos du cœur. Et on cuisinait à partir d'un vendu, on récupérait tout, on s'organisait et on distribuait ça aux personnes qui venaient et qui avaient droit à un repas gratuit comme ça. Donc ça peut vraiment permettre de redistribuer des richesses à des personnes qui n'y ont pas accès tout en étant hors du système monétaire, hors de tout ça. Et ça va juste sur le côté humain finalement. On devrait limite tous avoir le droit à la nourriture, ça devrait être un droit universel. Parce que ça, c'est un droit vital, en fait.
Ouais, je trouvais ça hyper intéressant dans le livre de se dire mais pourquoi est-ce que c'est pas un bien commun comme, l'eau, on y a facilement accès partout, dans comme l'éducation, l'école qui est gratuite ou d'autres choses, quoi, en fait.
C'est ça, parce que dans l'esprit du capitalisme, et ça a gangréné tout le monde, hein, et faudrait juste sortir de tout ce schéma et fonctionner. Bon, j'ai besoin de ça et je vais ne prendre que ça et pas chercher tout le temps avidement à tout posséder et à être dans le trop tout le temps.
Ouais, je t'ai marqué par cette remarque que t'as fait à un gérant d'un magasin bio qui disait qu'il pouvait pas te donner ses invendus, sinon les gens ils achèteront plus dans son magasin, ils viendront tous récupérer des invendus. Et...
C'est ça.
Et t'es là, mais on te marche sur la tête, quoi. Enfin, et en même temps, je comprends la logique, mais ouais.
On la comprend, mais c'est du coup une logique totalement dénuée d'humanité. Et c'est comme les personnes qui mettaient à une époque. Alors ça a toujours été un mythe pour moi, je ne l'ai jamais vu. Mais on me parle souvent de la javel sur les poubelles. Ouais. Et je me dis, mais on arrive à quel niveau d'inhumanité pour mettre de la javel parce que les personnes savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien.
Enfin, que, je pense qu'ils risquent de se prendre des procès au cul et d'être responsables.
C'est ça. Et ils préfèrent gaspiller cette nourriture à dessein plutôt qu'elle puisse servir à des personnes qui, ça se trouve, n'auraient même pas les moyens d'aller dans leur magasin. Donc, il n'y a même pas cette logique de si on commence à donner, ils vont arrêter d'acheter.
Ah oui. J'aimais ce que tu disais par rapport à l'argent. Ça me fait penser à... Je ne sais pas si j'avais écouté, parce que Cora est abonnée au podcast. Je suis trop content. Peut-être la première abonnée auditrice que j'interviewe, je suis trop content. À l'épisode avec Nance de Nu et culotté, de l'émission Nu et culotté de télé, où ils voyagent nus et sans argent. Et du coup, ils vont dormir chez l'habitant, ils vont faire du bateau stop ou des trucs improbables. Et du coup, ils se retrouvent dans des aventures géniales juste parce que justement, ils ont enlevé l'argent de l'équation et qu'effectivement, ils vont rendre service en échange ou être accueillants ou chaleureux. Puis ils se prennent des noms aussi, hein, évidemment. Mais on est tellement matrixés par l'omniprésence de l'argent. Je ne dis pas que je voudrais un monde sans argent, ça, c'est tout un débat. Mais que, en tout cas, les fois où tu enlèves l'argent de l'équation, tu as un autre rapport au monde. Tu peux avoir plus de liens sociaux, de troc, d'humains. Est-ce que toi, c'est un truc important dans ta démarche?
Totalement,
d'expérimenter cet autre rapport au monde.
Oui, de base, j'essaye d'être le moins dépendant à l'argent. Forcément, dans cette société, c'est impossible. Donc voilà, mais...
Donc, tu veux dire quoi? Réduire tes dépenses ou ça veut dire...
Oui, finalement, ouais. À part mes charges fixes, donc qui sont loyer, électricité, internet, tout ça, je dépense rien à part nourriture. Et même là, la nourriture, du coup, je dépense presque plus rien. Je préfère vraiment trouver... Ouais, même dans les loisirs, tout ce qui va me faire plaisir, j'essaye toujours de me dire si j'essaye de voir quelque chose qui est gratuit ou accessible, et pas forcément par radinisme, mais plus par simplicité. On peut même parler de frugalisme.
Ouais.
Finalement, de trouver du bonheur dans les choses les plus simples et les
balade,
plus et même si on passe pour des hippies un peu simplés parce qu'on est content de voir des oiseaux dans le ciel ou de faire une balade dans la nature, finalement l'impact il est juste positif. On n'a pas pollué. Je préfère à la limite avoir une société de gentils hippies que le monde qui court à sa perte comme aujourd'hui.
Oui, je fais une parenthèse. Toi, t'as l'air de te nourrir majoritairement de friganisme, si j'ai bien compris.
Ouais.
Mais tu l'écris dans le livre, Et si vous commencez, même après, c'est bien peut-être de faire 50% de friganisme et le reste de compléter pour s'assurer quand même d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Parce que forcément, c'est ça, ouais.
Alors, soit on a énormément de chance et on arrive à trouver vraiment de quoi avoir tout son quota en protéines, en fibres. Oui. Voilà,
c'est le niveau professionnel, quoi.
Voilà, mais même nous, enfin, ça, on est, c'est le hasard finalement de la poubelle. On ne sait pas du tout ce qui va être jeté. Donc, il y a des fois où on va avoir de quoi tenir pour des mois et puis il y a des fois où j'ai à peine de quoi tenir deux jours parce qu'on n'a rien trouvé. Ouais. Donc, oui, on pourrait en soi être totalement frigane, enfin que notre seule source de nourriture soit le friganisme. Cependant, voilà, je déconseille, ce serait pas forcément sain pour la santé. Et puis, on a quand même besoin de fruits et légumes frais. Enfin, c'est toujours mieux, mais en tout cas, ça complète bien. Et moi, je suis presque à 80-90% en frigane, ouais. Vu que ce qu'on trouve, c'est vraiment du super niveau dans les poubelles bio.
Est-ce que t'as des anecdotes à nous raconter sur je sais pas, des passants qui te font des remarques positives ou négatives, par exemple?
Oui, une fois, une petite mamie qui était vraiment trop, trop chou. Donc, j'étais avec une seule amie et elle s'est collée à nous et elle commentait tout ce qu'on trouvait comme si c'était un match de foot. Elle était là, « Oh, ta mamie, et elles sont mignonnes. Oh, et les carottes. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les carottes ?» Et vraiment, elle avait...
Un peu agressive.
C'était extrêmement marrant et comme si elle était avec nous et puis des fois elle parlait de nous à la troisième personne, donc c'était vraiment c'était assez comique. Puis oui, souvent des gens qui vraiment vont nous tenir la jambe et discuter pourquoi vous faites ça, tout ça. On a eu très peu de mauvaises rencontres finalement.
Ah ouais, okay.
Ouais, on le fait quand même relativement tôt, on le fait vers 20h, c'est pas comme si on le faisait à 22h-23h, là j'aurais un peu plus peur je pense. Ouais. Mais oui, des gens qui ont essayé de nous donner de l'argent. Parce qu'ils pensaient qu'on avait besoin. Et ouais. En général, mes amis ont le réflexe de refuser. Et ils comprennent pas et ils partent. Mais vraiment, un homme style à soixantaine qui s'est arrêté, qui sans un mot comme ça un peu dédaigneux nous avait tendu un billet de 50. Et ma pote très fière qui fait « Non, non, c'est bon, on n'a pas besoin. » Il était reparti, mais vraiment sans un mot. Et on était là, qu'est-ce qu'il voulait en fait?
Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui... Ouais, donner de l'argent, c'est un moyen de déculpabiliser. Mais ouais... Mais bah, j'avais fait tout un épisode au début sur les personnes sans abri et que des fois, bien sûr que c'est bien de donner de l'argent, mais le premier besoin, c'est de l'écoute et juste créer une relation de deux secondes, de comment ça se passe bien votre journée, je sais pas, serrer la main. Ou... Moi, maintenant, ouais. J'essaie à chaque fois de dire bah, bonjour, moi je m'appelle Pierre et vous appelez comment, d'où vous venez. Enfin, après, si la personne n'a pas envie de parler, il n'y a pas de souci.
Mais considérer la personne finalement, parce qu'elle existe aussi et ouais. Je ne veux pas la déshumaniser.
Mais moi, le premier, j'avais souvent honte et moi, je suis tout le temps trop mal à l'aise quand je passe à côté d'une personne sans abri. Et je sais qu'avant, voilà, je donnais une pièce vite fait, justement, par gêne et sûrement comme ce monsieur, peut-être. Et du coup, ouais, c'est essayer aussi de faire les deux, quoi. Et est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu penses à d'autres anecdotes, toi, avec tes copains ou... C'était quoi votre plus belle collecte, par exemple?
Mais pour le coup, j'étais toute seule.
Okay.
Et quand je suis arrivée, donc en général, quand je suis toute seule, c'est un peu moins bien parce que enfin, je peux pas faire la moitié des poubelles vu que je peux pas la renverser ou alors je peux pas atteindre le fond vu que je suis très petite. Et là, j'arrive et il y avait un groupe d'Australiennes qui voulait tester aussi, qui faisait beaucoup en Australie. Et on avait commencé à faire une première poubelle où il n'y avait pas grand-chose. Et là, le magasin a sorti une poubelle, on a ouvert. Et ce soir-là, j'ai pas pu récupérer plus, mais j'avais déjà 250 €. J'ai fait le compte après, j'avais 250 € en purée d'oléagineux, produits un peu sucre de date ou des farines de betterave, enfin des produits un peu comme ça, un peu pas exotiques, mais un peu incongrus, des pruneaux, des dattes séchées. Et en rentrant chez moi, donc j'ai un petit rituel. Des fois, quand je fais des grosses prises, je fais le juste prix frigan où je montre en photo et les gens doivent deviner combien ça a coûté. Et je passe ma soirée à tout calculer, à chercher les prix sur les sites. Et ce soir-là, j'en avais pour 250 €. Et il y avait beaucoup plus que, il y avait même des croquettes pour chat, je m'en rappelle, enfin, que je n'avais pas pris. Mais du coup, il devait y avoir peut-être 1 000 € dans cette poubelle, vu qu'on était 4 ou 5 à se partager tout ça.
Si tu jettes juste, je sais pas, 1% du stock d'un magasin, ça représente tout de suite des montants énormes, quoi.
Ouais.
Toi, est-ce que tu sais à peu près combien t'économises par mois grâce à ça?
Pour ça, il faudrait que je sache combien je devrais dépenser en temps normal. Et je n'ai pas fait de course normale depuis des années.
Ouais.
Donc, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est quoi, 200 ou 300. J'ai l'impression que je dirais une énormité quand. Voilà, mais par mois, en général, les gens, ils dépensent.
Ouais, je dirais ça, peut-être 200 € par personne.
200, 300 €, moi, j'en suis. Ça dépend. Il y a des fois où je peux être à 10 €. Ouais. Je peux être à 10 € comme je peux être à 50, mais c'est vrai que ça va rarement au-delà de 50-60 € par mois.
Toi, tu dépenses en bouffe?
Ouais. Et pourtant, j'adore cuisiner, je regarde jamais à la dépense, je regarde pas les prix, parce que pour moi, ce qui compte, c'est vraiment la qualité locale, bio, oui. La fraîcheur, tout ça. Donc, c'est vrai que quand je vais acheter, c'est toujours primeur et magasin bio, et je regarde pas les prix.
En même temps, si t'achètes que 3 trucs par mois, c'est sûr que ouais, tu peux t'acheter des trucs de luxe.
Mais même quand j'étais étudiante, avant de connaître le friganisme, j'étais déjà comme ça, vu que je dépensais déjà pas beaucoup, et je savais que la nourriture, oui. C'était vraiment important.
Un truc important, ouais. Bah...
Donc, entre 10 et 60 euros, selon les mois.
Ouais, donc tu dois bien économiser 200 euros par mois. Et tu fais quoi? Tu le fais une fois par semaine ou c'est un rendez-vous? Ça marche comment?
Je le fais 2 fois par semaine, ouais.
Ok. Et donc ça, ouais, ça te prend, je sais pas,
ça me prend 2 soirées, donc en général 1h30, 2h.
Ouais.
Ça nous fait une bonne balade, ça fait un peu comme du sport finalement.
Merci Cora. Vous pouvez retrouver Cora sur Insta @lafriglaneuse et en librairie avec ton livre de recettes frigan. Abonne-toi à Soif de Sens pour plus de témoignages inspirants. Et merci beaucoup. Ciao Cora, ciao tout le monde.
Salut.